clouds rolling in off the East River bank, like a shroud it covers Bleecker Street, fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street. Crooked rhyme, holy, holy is his sacrament. $30 pays your rent on Bleecker Street. I heard a church bell softly chime in a melody sustaining. It's a long road to Canaan on Bleecker Street.
Getting to know you. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
Charlie, reboot device.
Aïe, 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 aïe.
Ouais. Je sais pas ce qui se passe, il est secoué dans tous les sens comme s'il avait des spasmes.
Oh merde. Je sais pas, j'ai jamais vu un chat faire ça.
Dis-moi quel contrôle vocal utiliser.
Après, Charlie, d'après ce que tu décris, a toujours été très très vif, on va dire. Donc ça me paraît pas non plus en remote pour lui. Mais...
C'est un euphémisme très vif.
Je crois que tu emportes les marques toi-même.
Là, ça fait, je crois, une semaine qu'il m'a pas réattaqué.
Oui, mais dans ce cas-là.
Mais c'est marrant parce que les autres personnes, ils les attaquent pas, ils m'attaquent que moi.
Je sais pas quelle conclusion tirer de ça, à part des conclusions un peu flippantes.
C'est parce qu'il m'aime. Il m'aime, alors il me fait du mal. C'est comme ça que ça marche, non? J'ai lu assez de fanfic Harry Potter, Draco Hermione pour savoir que ça marche comme ça.
Et encore, t'as pas glissé dans les regards Hermione.
Oh non! Non!
Tu es tellement upset que ton son a sauté deux fois. Tu as traversé pas le mur du son.
Charlie, arrête de marcher sur mon clavier.
Je tiens à préciser pour la postérité que je n'en ai jamais lu, j'ai simplement vu les listings. Et il y a
d'accord.
Pire.
Charlie, arrête. Moi, je suis sûre que tu en as lu avidement.
Non, mais il y a franchement pire. Il y a genre
du McGonagall Harry.
Ça, tu penses que c'est pire? Il y a du Harry Voldemort.
Oui, mais enemies to lovers, ça se comprend.
Oui, mais faut quand même pas pousser. Enemies to lovers, c'est pas non plus. Tiens, Adolf Hitler, sa petite moustache, quand même, elle me fait un effet.
C'est cool, je vais relire le dernier dans une bonne ambiance.
Yes.
Avec des bonnes images mentales.
Mmh. Oui. Oui, oui. Là, t'as fini le 6.
Ouais, j'ai fini le 6, ça fait une semaine, je crois, une semaine et demie. Mmh. Et puis, j'ai, J'ai un peu commencé le set.
Mmh. Et tu as une... ton impression du 6 a changé après l'avoir lu ?
Je préfère le film.
Ah, ok.
Le film, il est beaucoup plus teenage-angst.
Ah oui, oui. Le bouquin, il est beaucoup plus... Tiens, j'en profite pour rendre mon lore un peu plus subtil, peut-être.
Ouais. Peut-être.
C'est genre, ah tiens, il y a ces lieux-là, on les avait pas vraiment explorés. Tiens, il y a ces personnages-là. Tiens, il y a cette maison-là, ça s'appelle Serpentard. En fait, ils sont pas tous fachos.
Pas tous fachos, mais un peu.
Et puis, j'adore le concept. Alors, on a... Bienvenue dans Poudlard, une école avec 4 maisons. Alors, comme vous le savez, un des plus illustres anciens étudiants est le nouvel Adolf Hitler. On le croyait mort, il est de retour, et maintenant toute la société l'accepte. On est en guerre ouverte. Et on a un nouveau professeur qui est lui aussi issu de cette maison et qui va organiser des dîners où il va inviter tout le monde. Mais rien de spécial, hein, vous inquiétez pas, rien de suspect.
Même pas inviter tout le monde, inviter une sélection d'élèves.
Oui, parmi les plus influents potentiellement, etc. Ça n'a rien d'inquiétant. Au fait, le nouveau prof chargé d'organiser la défense est quelqu'un réputé pour être très mauvais prof. Un mec absolument détestable, ancien néo-nazi réformé. Mais au-delà de ça, pas de problème. Tu sens que Dumbledore, il a retrouvé les bonnes grâces du public, il fait ce qu'il veut. Limite, il aurait fait, et voici le nouveau prof de botanique, Lord Voldemort, quoi.
T'es con.
Oh. Ça saute un petit peu, donc je sais pas si je t'ai fait rire ou si je t'ai consterné.
Tu m'as fait rire.
Non, mais tu sais que t'as des filles comme ça qui sont un petit peu... Tom et le Visionusor chope le job quand il a chopé le job de prof. Même le chope encore même avant. Et du coup, ça devient une exploration du personnage. Et puis, tiens, au lieu d'être entouré de nervis néo-nazis, il est plutôt entouré genre d'élèves et de profs. Et donc, du coup, il tourne mieux.
D'accord.
T'as des tentatives comme ça de le sauver. Le truc le plus mignon que j'ai lu, c'est une fanfic de Retour dans le temps. Harry Poitier retourne dans le temps pour ouvrir une boutique sur le quartier malfamé là, à côté de Diagon Alley.
Ouais, ouais, je vois tout à fait.
Et qui est une boutique de serpents, donc t'imagines bien que ça intéresse. Le tout jeune orphelin Tom Elvis Jedusor, Tom Marvolo Riddle, pardon.
Ouais.
Et du coup, il le prend sous son aide, il lui file des conseils, etc. Et puis, il devient plus humain. Ce qui lui permettra d'avoir une scolarité plus normale et donc de ne pas devenir Hitler ou.
Ok. C'est sympa de ne pas devenir Hitler.
C'est très sympa de ne pas devenir. C'est.
Je pense que c'est une des meilleures idées qu'on peut avoir.
Vous aussi, ne devenez pas Hitler, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Notre nouveau programme en 12 étapes. Pas de...
Bon, et du coup, toi, comment tu vas? Quoi de neuf,
hein? Ah, on a le podcast, c'est ça?
Je sais pas, on l'a commencé il y a un moment, le podcast, non?
J'en sais rien. Ce sera Craig de décider. Moi, quoi de neuf? J'ai quitté Twitter. Je me suis pris un vent de la part du chômage.
Développe sur ce vent de la part du chômage, parce que j'étais curieuse quand même.
Ah, ok. Donc, j'ai reçu un courrier. C'était... Ah oui, alors, quand même, aux gens qui nous écoutent, parce qu'apparemment, le podcast a commencé. Que nous sommes à une date un peu spéciale, nous sommes le 25 décembre.
Oui, c'est vrai.
Il s'agit donc d'un Christmas épisode spécial de Noël de Getting to Know You, que vous n'aurez pas à Noël, mais qui est techniquement enregistré le jour de Noël, parce que, écoute, toi et moi, on a déjà beaucoup d'expérience dans le fait d'enregistrer des podcasts à des dates improbables, comme par exemple le jour de l'an, ou alors le jour de changement de date, enfin de changement d'heure. Exactement, donc on perpétue cette tradition en 2022 avec un podcast enregistré le beau jour de Noël. On a fait moins de choses que d'habitude, on va pas en définitive. Et donc oui, ce vent du chômage, c'est que, étant donné que je suis tombé malade et entré en situation de handicap, je l'ai appris par la suite, à la fin d'un contrat de travail, je me suis dit que j'aurais peut-être droit à une certaine forme de compensation immédiatement après. Des jours qui concernent immédiatement après être tombé malade. Et du coup, sous encouragement express de l'assurance invalidité et de l'hospice général, je suis allé au chômage faire bonjour, j'aimerais. Ça paraît terrible comme ça, mais bonjour, j'aimerais avoir droit à ce à quoi j'ai.
Ouais.
Et pour atteindre la caisse de chômage, il fallait s'inscrire au chômage. Et pour s'inscrire au chômage, il faut avoir la volonté de travailler. Et pour avoir la volonté de travailler, il faut pouvoir travailler. Et c'est là qu'est tout le game, en fait. Parce que depuis la fin du mois de septembre, j'ai un certificat médical qui indique que je peux travailler uniquement à distance, uniquement avec des outils type contrôle vocal et uniquement pour un certain nombre d'heures par semaine. Et ce nombre d'heures par semaine, c'est pas beaucoup, étant donné mon état, étant donné tout ce que j'ai à faire à côté, en termes de thérapie, d'aller voir les médecins, de trucs, de machin, et de repos. Vous y pensez un truc con, mais quand on est dans ce genre de situation, c'est bien de se reposer aussi. Et du coup, je me lance dans les démarches. Et du coup, je postule à des trucs sous encouragement du chômage. J'ai dû postuler à 5 jobs par mois, ce qui est la limite minimale, hein, on va pas se mentir, mais encore une fois, la simple action de postuler, c'était relou à faire, donc... Voilà. Et puis, il faut monter pas dedans. Je dois envoyer chaque mois un document qui dit « Oui, bonjour, j'ai postulé ici, là et là. » C'est ce genre de...
Pour
ta bonne foi. Et je les ai revus après avoir commencé. Donc, j'ai fait ça en octobre, j'ai fait ça en novembre. Je les ai revus en novembre. Ils m'ont dit « c'est bien. Mais tu sais ce qui serait plus drôle, malgré ta situation, que ce soit plus compliqué pour toi. » Et du coup, ils m'ont demandé d'en faire 5 par mois, mais pas toujours le même jour.
Ok.
C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est qu'au lieu de batcher les 5 le même jour, les 5 demandes d'emploi, comme toute personne censée le ferait dans ma situation, parce que c'est difficile de recommencer l'activité à différents jours, ils m'ont dit non, ça doit être des jours différents, sans aucune précision de quelle était la limite minimale ou maximale de nombre de jours différents qui serait accepté, tu vois, mais il faut que ce soit au moins 2 jours différents, apparemment. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire pour décembre, et c'est en décembre que j'ai reçu un courrier qui m'indiquait que, après avoir bien examiné mon cas, en gros, ce serait niet à la fois pour ce que j'avais demandé en général, c'est-à-dire toucher les compensations qui étaient relatives aux jours qui ont suivi le début de ma maladie et la fin de mon contrat.
Ouais.
Et c'était également niet pour me compenser, pour me payer, pour me permettre de vivre pendant la période où j'ai postulé.
D'accord.
Et la raison, c'est que taux était inférieur à 20% de disponibilité pour le travail.
D'accord.
Taux horaire. Et ça, c'est intéressant parce que figurez-vous, quand on est dans une situation comme la mienne, on n'a pas forcément l'occasion de genre éplucher la loi. Et cette histoire de 20%, on m'en a parlé plus d'un mois et quelques après le début de la procédure. Et on m'en a pas parlé sur l'idée que ce serait un deal breaker. On m'en a parlé à la base en me disant vous auriez droit à plus de trucs.
Si
vous étiez à 20%. Et aussi bien la caisse de chômage que le chômage, en gros, on me disait « Ouais, ce serait quand même bien, etc. » Et je leur disais à chaque fois « Écoutez, je vais pas faire mentir mon médecin sur ma capacité, parce que d'une part, ce serait un taux de travail que je serais pas capable de fournir à un employeur derrière si jamais il y en a un qui accepte.
Ouais.
Et de l'autre côté, ce serait mentir. Et mentir, ça rapporte pas de l'argent, ça en coûte. De frauder les assurances sociales, le chômage, etc. C'est pas super bien vu nulle part et particulièrement pas en Suisse. Donc plusieurs fois, genre 2 ou 3 fois, j'ai dû dire à des fonctionnaires non, je vais pas le faire parce que parce que ce serait un peu illégal et un peu malhonnête.
Ouais.
Et c'est un peu invraisemblable que j'ai eu à le faire et à le faire plusieurs fois, tu vois.
Ouais.
Donc on en est là. Le truc qui était consternant de pied en cap, parce que eux étaient forcés de suivre un peu un script. Et ce qui est intéressant, c'est la différence de culture en fait entre les deux structures. Donc à la fois la caisse de chômage d'un côté, la caisse de chômage qui est responsable en gros de te donner la thune, et le chômage qui est responsable de vérifier que tu fais correctement les choses pour qu'on puisse te donner la thune. Ou pour qu'on puisse arrêter de te donner la thune, puisque c'est ça l'objectif, en fait. Une assurance sociale, elle est surtout là pour éviter de te donner de l'argent. Enfin, pour t'en donner, je crois que t'en as une bonne expérience, toi aussi.
Ouais.
Que c'est... Ils sont là, ils ont la main sur le robinet, et je dirais bien que les règles sont plus dans le sens de préférer refermer le robinet que l'ouvrir. Mais bon, c'est ma petite opinion dessus. Il y a une différence culturelle, à mon avis, entre les deux. Le chômage, ils sont vraiment en mode on suit le script, on suit la loi, on suit les règles, y compris quand c'est pas logique ou que ça correspond pas à la situation. Tandis que la caisse de chômage, elle est plus thésarde. Elle est plus dans l'idée de tout cela est très compliqué, on va prendre énormément de temps à rendre une décision. Et d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que la caisse de chômage a fait « Alors, on a rendu une décision, et c'est de ne pas rendre de décision et de se plier à la décision que prendra le chômage. »
Ok.
Et la décision du chômage, ça a été non.
Comme nous l'apprend le début de Emily in Paris saison 3, ne pas choisir, c'est choisir.
Mais bien sûr, et ne pas avoir d'opinion politique, c'est avoir une opinion. C'est très important, et je crois qu'on pourrait inscrire... À ce titre, cet épisode d'Emily in Paris dans le cursus de sciences politiques de n'importe quelle université qui se respecte. Mais voilà, moi, cette expérience-là, à la fois, elle me perd un petit peu parce que c'est un défi en moins, en guillemets, à surmonter. Hein. J'ai ça en moins qui me tourne autour et au moins, j'ai pas à y penser, j'ai plus qu'à me concentrer maintenant sur l'AI. Et à la rigueur, en définitive, sur l'hospice général, le jour où il restera plus que ça, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, et ça finira peut-être par arriver suivant comment évolue la situation de santé. Et de l'autre côté, je ne vais pas cacher que c'est extrêmement frustrant, que c'est extrêmement triste, que j'ai envoyé un email, je ne veux pas dire incendiaire, mais disons que j'ai un peu mis les points sur les i avec ma conseillère chômage, parce que j'ai reçu ce courrier qui me disait « Eh bien, niette !» Et du coup, j'ai demandé à ma conseillère chômage « Est-ce que ça veut dire qu'au rendez-vous qu'on avait fixé en février, il est annulé ?» Et elle m'a répondu un truc du style « Eh bien, je prends bonne note que vous annulez le rendez-vous de février. » Moi, je suis en train de dire J'ai pas dit ça. J'ai pas dit « Il est annulé, je l'annule. » J'ai dit « Est-ce qu'il est annulé ?» C'est un peu différent. Et je lui ai également dit « Bon, meuf, prendre 6 semaines pour m'envoyer un document d'accord de partage de données entre 2 assurances sociales, un document qui fait 2 pages et qui est absolument pas personnalisé, donc que tu as vraisemblablement imprimé depuis le réseau, ou le site intranet de ton institution et l'envoyer par courrier. Pourquoi ça prend 6 semaines? Pourquoi ces démarches-là sont si lentes? C'est des grosses machines, je comprends en gros le principe, mais là, c'était ton taf et ça t'a pris 6 semaines. Nani the fuck, comme on dit en japonais ou anglais. Voilà. Là, j'ai un peu envie d'appuyer là où ça fait mal et de dire non, et oh, peut-être me prendre pour une personne humaine, ce serait bien de temps en temps. Mais au-delà, de toute façon, j'ai aucun bouclier, j'ai rien, quoi. Donc ouais, c'est chiant. C'est chiant d'avoir passé autant de temps. Je vais pas dire d'avoir mis autant d'espoir, parce que j'ai toujours eu beaucoup de recul là-dessus. Mais d'avoir mis autant d'efforts et de temps là-dessus, pour que ça ne serve quasiment à rien, pour que ça aboutisse sur juste un document qui dit « bah voilà, ils ont dit non ». Comme ça, maintenant, on sait qu'ils ont dit non et on sait que c'est plus important que vous me filiez de la thune parce qu'eux m'en filent pas. C'est fun, mais maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai rien eu. C'est 1 an et demi que j'ai pas touché un rond. Et pendant 6 mois, j'étais en capacité de faire des piges. Le seul problème, c'est qu'avec l'overload administratif que tu as quand tu essayes de bosser et que tu es au chômage, je pouvais même pas parce que entre les paperasses à faire pour le chômage, les demandes elles-mêmes, ça aurait été too much de bosser et en plus de devoir faire les paperasses supplémentaires que tu fais si tu bosses pendant que tu es au chômage. Pour moi, c'était impossible. Et donc, le chômage, c'est un truc qui a duré 6 mois et qui m'a empêché de travailler et de gagner de l'argent. Alors que je suis dans une situation de précarité. Ça donne envie. Si je vais même prendre des risques, je dirais que ça donne envie de foutre le feu, mais évidemment, je n'aime pas prendre des risques, donc je ne vais pas dire ça. Mais ça donne envie de donner des claques, en tout cas, ça c'est clair.
Bah, moi, ma mère, tu sais, là, maintenant, elle a pris sa retraite anticipée. Elle est à la retraite.
Yes.
Et puis normalement, vu qu'elle avait une petite retraite, elle était censée pouvoir toucher les prestations complémentaires. Et puis elle a fait le dossier pour les prestations complémentaires. Ça leur a pris 6 mois à lui répondre. Et elle n'y avait pas droit, en fait. Parce que... Enfin, 6 mois, ça a pris 6 mois, mais pendant ces 6 mois, elle était régulièrement en contact avec eux.
Bien sûr.
Et puis bref, elle n'y a pas droit parce que quand mon père a touché son deuxième pilier et qu'ils ont divorcé, elle a touché une partie du deuxième pilier. Et puis, sur cet argent, elle en a donné une petite partie à moi, une petite partie à mon frère.
Mmh.
Et puis... elle a remboursé des dettes privées qu'elle avait. Et puis, en fait, ils ont considéré ça comme un abandon de fortune à cause d'une loi qui est passée il y a genre 2 ans.
Alors...
Et puis, en gros, elle a pas le droit aux prestations complémentaires. Du coup, ensuite, elle est allée à au social. Et au social, au début, ils lui ont dit « Ah, mais si vous avez eu un abandon de fortune, vous n'aurez pas le droit au social non plus.
Mmh. »
Et finalement, elle a quand même eu droit au social.
Oui, bah, logiquement, parce que même en cas d'abandon de fortune, j'imagine bien qu'au bout d'un moment, on va pas laisser crever les gens. Enfin, en tout cas, c'est pas le but. Oui. C'est...
Est-ce que tu en es bien sûr ?
Ah non, mais attends, et...
On est
effectivement les premiers pour pouvoir justement faire le maxi cynisme là-dessus et dire oui non le système est un peu eugéniste et conduit un petit peu vers une précarité extrême. Je suis totalement d'accord.
Non, ça nous ressemble pas de dire que le système est eugéniste. Voyons.
Ça ressemblerait pas au précédent épisode de Getting to Know You dans toutes les bonnes applications de podcast.
Ça ne ressemblerait pas du tout à ça.
Mais moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que de l'autre côté, concernant justement la fortune, encore une fois, plusieurs personnes, y compris des gens proches, voire même faisant partie de l'institution, je sais plus s'ils faisaient partie de l'institution ou s'ils étaient proches d'institutions type assurance sociale, m'avaient conseillé de littéralement bloquer mon épargne.
Ah ouais, ok.
Parce que bah, tu touches plus rapidement l'hospice général. Et ensuite, tu la récupères d'une autre manière. Mais effectivement, j'imagine que c'est un délit qui s'approche de l'abandon de fortune. Parce que tu planques de l'argent et tu... Oui, ou simplement, tu déclares de manière erronée tes trucs. Je ne l'ai jamais fait parce que je suis un garçon beaucoup trop honnête pour faire ça.
C'est tout à ton honneur.
Bah, quand tu discutes avec les gens qui m'ont conseillé de faire l'inverse, honnêtement, c'est peut-être tout à mon honneur, mais c'est peut-être extrêmement naïf aussi. Maintenant,
Oui, tout à fait.
Je me regarde dans le miroir. Je peux me regarder dans le miroir et je peux être content de là où je suis en termes éthiques. J'ai toujours payé mes impôts, j'ai toujours payé mes cotisations, j'ai toujours fait tout ce que je croyais en tout cas être le plus correct du monde. Alors si quand même, il y a un truc qui a fait plaisir récemment, c'est que je suis vraiment désolée
pour les petits bruits qu'on entend sans arrêt, c'est Charlie qui mange. Parce qu'en fait, il est un petit peu en surpoids et j'ai dû lui donner sa nourriture dans un jouet en fait.
D'accord, mais tu sais quoi, je pense que ça s'entend pas comme ça.
Ça s'entend pas ? Ok,
pas
cool.
Peut-être un petit peu, mais en tout cas, de mon côté, pas tant que ça. Mais...
D'accord, parfait.
Je trouve délirant en tout cas que ce soit comme ça pour ta maman, alors que de l'autre côté, on m'a conseillé de planquer le pognon. Ouais, je trouve sociétalement, il y a une contradiction qui est très claire en ce qu'on te conseille de faire, puisque la loi t'interdit de faire. Et la question, en fait, elle se base sur jusqu'à quel degré être honnête, ça, et jusqu'à quel. Oui, c'est à mon honneur, mais est-ce que ça reste une bonne chose à faire alors que les lois sont aussi injustes?
Vraiment que je te réponde.
je trouve que ce qui arrive à ta mère est injuste, par exemple. Donc,
oui, totalement. C'est totalement injuste.
de deux choses l'une, soit il aurait fallu tricher, soit il aurait fallu changer la règle. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je ne suis pas en faveur de tricher, donc c'est pour ça que je serais plutôt en faveur de... plutôt réformiste, tu vois.
Tout à fait, ouais, faut changer les règles.
Mais oui, non, voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai terminé l'année, en très gros. Voilà, le quotidien est toujours un petit peu le même. Je m'approche, et c'est un peu un challenge pour 2023, en vrai, d'accepter la situation telle qu'elle est et de me dire, bah voilà, c'est ma vie maintenant. Et putain, c'est difficile, hein. Mais c'est une des plus grosses couleuvres que j'aurais eu à avaler dans ma vie.
Parce que tu penses que c'est vraiment pour toujours ta paralysie.
Non, je pense pas ça. Mais je pense que c'est productif d'accepter ça.
Ouais, effectivement. Je vois la nuance.
Je pense qu'à ce stade, si je vais être dark pour un instant, mais si je veux pas contempler des trucs pires, j'ai intérêt à accepter la situation telle qu'elle est et à trouver des parades tout de suite et à trouver une vie intéressante là-dedans immédiatement. Une scène intéressante immédiatement parce que sinon ça va pas être génial. Donc il y a certains défis que je pense pas pouvoir régler cette année, enfin l'année prochaine, mais sur lesquels il faudra commencer à réfléchir, notamment à la question de la répétitivité du quotidien et de l'enfermement. Parce que là, ça fait un an et demi dans les 4 mètres et demi carrés. Le domicile dans lequel je suis est plus grand, hein, mais la pièce dans laquelle je passe beaucoup de temps, elle fait ça, tu vois. Donc, ça pose des questions importantes. Et dans l'immédiat, la question est plus de savoir, en termes entre gros guillemets d'activité et de routine, comment est-ce que je me cale pour que ce soit intéressant et pour que ce soit satisfaisant. Je vais prendre l'exemple d'un podcast comme Tech2. Il est bien clair, contrairement à La Cartouche par exemple, contrairement à Getting to Know You, où dans les deux cas j'aurais toujours quelque chose de relativement inédit à dire et à discuter avec les personnes avec qui je fais ces émissions. Tech2, étant donné que j'utilise plus du tout la technologie de la même manière et que je l'utilise plus du tout à la même vitesse et plus du tout avec la même diversité parce que j'ai plus les mêmes capacités, voilà, ça va impacter comment est-ce que je participais à ça. Doute très fortement. Et je profite largement du fait que ce podcast-là va pas sortir avant un certain temps, vu que c'est les fêtes et qu'on va laisser à Greg le temps de fêter la fin d'année, mais je discuterai au tout début d'année avec Franck. Bon, on va voir si ce à quoi on aboutit, hein, mais j'ai des idées pour adapter ma participation et en gros adapter ma créativité niveau podcast à ce que je peux faire et avec ce que j'ai sous la main et avec ce à quoi je suis le plus efficace aujourd'hui. Et ce à quoi je suis le plus efficace aujourd'hui, c'est peut-être plus de tout présenter ou de tout faire en antenne. Mais peut-être d'être sur des tâches de production plus involved, si tu veux, de préparer des dossiers, des interviews, des trucs dans le genre, et d'être plus en retrait. Ça marcherait mieux. Et c'est pas complètement con. Ça veut pas dire que je vais plus faire d'antenne du tout, mais ça veut dire que je suis, il faut être honnête, je suis pas dans une situation qui me permet de faire de l'antenne régulièrement. Et d'en faire de très bonne qualité. Là, le micro qui est là, il n'est pas top. Faire avec un bon micro, ça devient possible, mais ce ne sera clairement pas possible, à mon avis, à tous les épisodes, si on reste sur un état de santé comme maintenant. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça rentre dans ce genre de truc. Je cite les podcasts, mais évidemment, c'est tout le reste. C'est plein de trucs qui sont en jachère, genre là, de trucs personnels, la vie amoureuse qui est mort complètement en pause depuis Fastoche, justement un an et demi, parce que mais qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation, et ça aussi, si tu penses un peu long terme, si tu penses 2023, là c'est le truc où tu te dis qu'est-ce que je fais, parce que je reste un être humain avec des envies, avec des I have needs, Aïcha.
J'ai dit you.
Non. je faisais une blague. Je faisais une blague, voilà. Bien sûr.
J'avais bien compris. Moi aussi.
Je monte sur mes grands chevaux. Mais oui, non.
Non, mais Charlie, putain, j'en reviens pas. J'ai un verre posé sur la table, il vient, il s'allonge sur la table et il fait glisser le putain de verre en bas de la table. Je l'ai rattrapé juste au dernier moment, mais...
Mon chat.
Mais... Et maintenant, il fait comme si de rien n'était et il redonne un coup de tête dans le verre.
Mais ouais, voilà, pour moi, 2023, c'est vraiment accepter la situation telle qu'elle est et puis adresser les trucs qui n'ont pas encore été. C'est ça. Qui se balade dans ma tête parce que avec toutes les démarches administratives, tous les trucs, tous les machins, j'ai tellement mis des trucs que maintenant degré ou de force, c'est le moment de les faire revenir et de les prendre un peu au sérieux. Voilà.
Ouais.
C'est le petit panorama. Toi, t'as quoi en tête pour 2023 alors qu'on est à l'orée de la nouvelle année?
Absolument rien.
Ni Dieu ni maître.
On a acheté Resident Evil 1 et 2 avec mon copain.
Ah, nice.
Les remasters. Du coup, la première semaine de janvier, en tout cas, je pense qu'elle sera sous le signe de Resident Evil.
Ouais, t'as fait le 7 récemment.
Ouais, j'ai fait le 7 récemment.
T'as pu l'expérimenter en VR ou tu l'as fait sur PlayStation?
Non, je l'ai fait sur PlayStation.
Yes, ok.
En fait, on joue avec l'écran partagé.
Enfin, ça veut dire que tu joues quand même ou il te montre simplement le jeu?
Il me montre. Et puis, on résout les... C'est pour ça que c'est cool les Resident Evil, c'est parce qu'il y a pas mal d'énigmes et de trucs du genre. Du coup, on peut les résoudre ensemble. Ouais, c'est pas comme...
Ta manette, Alan.
Exactement. Je dirais même plus, c'est mon joystick.
Oh, bah, you.
T'as commencé par ouh, pantalon.
Parce qu'évidemment, au départ, je me suis dit, mais c'est très intelligent comme jeu de mots. Et puis ensuite, j'ai fait, ah non, faut que je rende l'appareil.
Ouais, eh bien, ça ne te va pas bien, le côté revanchard. Le côté revanchard. Tu es mieux quand tu es pur, innocent et honnête.
Je
sur
suis
la, sur à quel point je suis génial.
D'accord.
Non, mais essayez peut-être d'alimenter le blog que je me suis créé.
Ah, yes, oui.
D'ailleurs,
les liens vers les épisodes de ce podcast, saviez-vous?
J'ai pas encore posté, mais ça ce sera sur le Utip.
Ah oui, pardon.
Oui, parce que je me suis créé un Utip.
Oui.
Utip, c'est comme un Patreon, sauf que t'es pas obligé de réserver les postes à qu'à une partie de l'audience.
Si vous souhaitez soutenir Aïcha, c'est un excellent moyen de le faire, au-delà de la suivre sur les réseaux sociaux et de partager ses publications. Je tiens à préciser que en aucun cas, ça ne me pousse à faire plus ou moins d'épisodes de Getting to Know You. Il y a aucune variable d'ajustement là-dessus.
Non, de toute façon, on est... Enfin, de toute façon, ma productivité ne sera pas liée à combien je touche sur ces trucs. C'est pour ça que je laisse tout... J'ai fait ce truc, mais je laisse tous mes articles, etc. C'est en accès libre. Parce que de un, j'aime pas le principe de faire payer des gens pour qu'ils soient obligés de payer pour avoir accès à quelque chose. Je trouve que c'est pas normal que les gens qui peuvent pas se le permettre ou bien qui juste ont pas envie de payer aient pas accès aux choses. Et puis aussi parce que ma productivité c'est lié à des choses bien plus insaisissables que ça.
Alors, tu dis ça avec un air éthéré pour faire un petit peu une blague, mais en vrai, je trouve ça super important de dissocier le pognon et ça, et je tiens à te le dire, et je pense que d'autres qui te connaissent le diront également, que de toute façon, on sait combien ton taf vaut et c'est beaucoup plus que ce que tu pourrais gagner avec un Patreon ou avec un Utip, même avec un Patreon ou un Utip qui marche bien. Donc
c'est très gentil de ta part.
On a déjà eu l'occasion d'en discuter et TMTC, voilà.
TMTC aussi.
Des millions, madame, des millions.
Ah, c'est gentil. Non, et puis ouais, j'ai créé ce truc. En 2023, je vais continuer. J'ai commencé à aller à un groupe de parole, en fait.
Yes.
Pour les personnes qui ont des troubles psy. C'est cool, les gens sont sympas, à part une qui m'agace un peu, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. C'est censé rester confidentiel, ce qu'on se dit dans ces groupes. Mais ouais, c'est sympa. J'y rencontre des gens sympas. C'est une fois par semaine à 10h, donc ça me force à me lever une fois par semaine.
Pour l'anonymité du truc, je sais pas si c'est le...
De quoi ?
Non, je disais pour l'anonymité du truc, peut-être que ça permet justement de découvrir un peu ce que c'est, mais... Mais en vrai, ça permet pas de découvrir qui c'est, donc c'est pas tellement grave.
Oui, bah si j'ai un stalker qui veut venir au même groupe de parole que moi, eh ben je vous emmerde, il est plein.
Ou alors ça peut servir de show and tell, tu sais, tu peux faire. Ah ben voilà, c'est à cause de ce salopard là.
C'est. Vous voyez, c'est ce mec. Ou alors ça peut me servir de témoin. Non, plein d'utilité à avoir un stalker à ton groupe de parole. Mais non, ça aide. Et puis j'ai commencé à faire de la relaxation de Jacobson. C'est une technique de relaxation où en fait, beaucoup de techniques de relaxation, ça se base sur la respiration. Et là, c'est pas du tout ça. En fait, ça se base sur le fait de contracter les muscles et puis de les relâcher.
D'accord.
Groupe de muscles après groupe de muscles.
Ok.
Et c'est plus sympa qu'un truc où il faut... Parce que moi, dès qu'on me demande de me concentrer sur ma respiration, en fait, j'oublie comment je suis censée respirer et puis je me mets à étouffer.
Je vois, ouais. Oui, donc effectivement, c'est pas mal comme système. Je me souviens avoir expérimenté un truc comme ça quand j'utilisais encore l'application Headspace de temps en temps. Il te demandait justement de te concentrer sur certaines parties du corps. Et donc, c'est peut-être une version moins ardue que de contracter puis décontracter les muscles. Mais au moins, ça permet de fixer ton attention sur quelque chose plutôt que le très peu pratique. S'il vous plaît, ne pensez à rien. Oui.
Ouais, tout à fait. Dire à quelqu'un de penser à rien, ça devrait être sur la Constitution de Genève.
Bah, surtout, dire à quelqu'un de penser à rien quand la personne a de la peine à ne pas penser à quelque chose de dérangeant, c'est un peu le défi, parce que tu fais « oui, bah, je serais pas faire ça si je savais ». Oui.
J'ai juste pris le pchit-pchit dans les mains et puis il a bondi loin de la table.
Ah bah voilà. Il commence à pas lever fort.
Arrête, ça me fait du mal au cœur de faire ça à mon chat.
Écoute, sois toi seul et responsable. Je sais pas d'ailleurs si c'est conseillé, déconseillé d'utiliser ce genre de truc. Si c'est que de la floche, je pense pas que ce soit très grave.
Oui, et surtout, je le pchit jamais dans son visage. Parce que quand je lui faisais dans le visage, ça marchait pas. Il y avait des fois où il continuait quand même à me mordre. Là, je fais juste un petit coup dans sa direction. il avait les pattes agrippées autour de mon bras, les dents plantées dans mon bras, et puis en soutenant bien mon regard, il prenait toute la flotte dans son visage. C'était...
More.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est...
Non, c'est rigolo parce que je croyais que t'allais dire non parce que je suis cruel dans le visage. Non, 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 parce que ça marche pas, j'ai essayé.
mais oui, non, mais c'est cruel, mais Mais est-ce que c'est plus cruel que lui me déchiquetant le bras une fois par semaine, à deux fois par semaine, voire même parfois trois fois par semaine?
Je pense que c'est une bonne question à poser au bac philo.
Ouais, vous avez 4 heures.
Ah, le fétichisme des Français pour le bac philo.
Mon Dieu, quel malade.
J'ai jamais vraiment pigé ça. Ça n'a jamais vraiment eu la même importance chez nous, parce que pour nous, c'est l'équivalent, donc le collège. C'est aussi le collège de Neuchâtel, déjà ?
En Valais, c'est en tout cas, oui, il me semble.
Ok. Ah oui, c'est vrai. Je suis con, moi. Oui, effectivement, t'as bougé à Neuchâtel après. Mais oui, non, c'est rigolo, parce que pour nous, enfin, la maturité, qui est l'équivalent du bac, c'est... Ces dernières décennies, c'est vrai que ça a monté en importance, mais c'est pas le paroxysme des études obligatoires que c'est en France. Quoi. Et c'est vraiment marrant de voir la différence culturelle entre les deux. Oui, d'accord, c'est quand même important, ça te permet d'accéder à l'Uni, blablabla. Enfin, c'est une des voies pour te permettre d'accéder à l'Uni, en tout cas.
Ouais.
C'est la voie où on te fait le moins chier, hein. On va simplifier ça comme ça. Enfin, c'est pas vu comme le truc à faire unique.
Ouais, c'est vrai.
Toujours trouvé ça marrant. Ouais. Et sinon, ces derniers temps, quoi de neuf, Aïcha ?
Pas grand chose. Hier, je suis allée voir mon père. On avait rendez-vous à 12h45 dans le hall d'entrée du foyer pour convalescent dans lequel il est. Et puis à 13h, on attendait encore. J'ai essayé de l'appeler et de lui écrire, il répondait pas. Et puis il y a une infirmière qui est passée vers nous et elle nous a demandé ce qu'on faisait. Et puis on lui a dit qu'on attendait Jean-Pierre Cotman. Et puis elle nous a demandé si on voulait qu'elle aille le chercher. Du coup, on a dit oui, volontiers. Et puis elle est revenue genre 5 minutes plus tard. Et puis elle nous a dit, ah ouais, désolé, apparemment il a un peu bu et puis il est tombé. Donc voilà. Ça mettait déjà bien de bonne humeur pour le début du truc. Mais après, on a discuté un peu et puis il a l'air d'être bien là où il est, c'est l'essentiel. Il a dit quand même des trucs positifs sur l'endroit où il était. Après, c'est mon père, du coup, c'est toujours difficile de savoir parce qu'il est vraiment. Il dit rien à personne. Il est vraiment extrêmement renfermé sur lui-même.
Ah, ouais.
Mais voilà quoi.
Oui, c'est toujours difficile de comprendre ce qui se passe avec un proche qui a beaucoup de mal à parler de soi et à parler de ce qui se passe. Dans certains cas, c'est de la pudeur, dans certains cas, c'est des exemples de générations précédentes où ils faisaient pareil. De configurations différentes, mais le problème, il en est toujours le même. La difficulté, elle est toujours la même. Et c'est toujours un jeu un petit peu difficile, ouais, pour avoir connu ça sous diverses configurations. Je ne peux pas élaborer. Notion de vie privée, mais ouais, je compatis.
C'est gentil. Mais ouais, du coup, ça m'a un peu, pas déprimé, mais ça m'a un peu fait un choc, quoi.
Ouais. Ouais, j'imagine que ça, c'est pas nouveau en plus, hein, mais ça rend Noël un petit peu...
Voilà, ouais.
Comment dire ? Pas stressant, mais juste bizarre.
Ouais.
Juste bizarre parce que t'as le... Dis-moi si je me trompe, hein. Mais t'as ce mélange entre le zeitgeist qui est « Ah, Noël, yeah, la réunion, les amis, la bonne... On s'offre des trucs, hein, c'est beau. L'opulence !» Et puis de l'autre côté, t'as les réalités à la fois du moment et puis les réalités spécifiques, familiales, de tes proches, de tes amis, etc. Et qui sont parfois complètement déconnectées avec ça. Alors t'as le discours un petit peu mainstream de on s'entend pas bien politiquement avec les gens avec qui on va fêter Noël. Et je comprends. Mais encore une fois, tu vois, quand tu fais le tour des possibles et que tu commences à rentrer dans le genre de situation que tu décris, tu te dis que pas être d'accord politiquement avec ton nom, c'est pas si grave que ça.
Non, c'est clair. C'est clair.
Et je dis pas ça pour valider les positions aussi affreuses puissent-elles être de l'oncle. Hein. Et Godspeed, si vous décidez de sauter Noël parce que vous pouvez pas piffrer votre, je ne sais pas, oncle homophobe, que sais-je, vous avez tout à fait raison et faites ce qui vous semble être le mieux et le plus reposant, parce que dans ce genre de période-là, qui plus est quand on est dans la vie active et que ça fait partie des rares vacances qu'on a, il faut en profiter comme on peut, mais ouf, c'est suivant quoi, c'est quand même, enfin, comment dire, quand on est dans ma situation, c'est-à-dire quand on est un mec blanc hétéro, certes, on peut avoir des proches relous, mais on peut aussi se les coltiner si ça permet à d'autres personnes qui sont pas aussi fortunées que soi de passer un meilleur moment. Comment dire, ça fait partie de la géopolitique du truc, en fait. Si t'as un membre de la famille un peu, je sais pas, un peu machiste, peut-être que être là pour donner un non-son de cloche fait en sorte que les meufs n'aient pas à entendre uniquement machin, c'est peut-être bien en fait.
Ouais. J'avoue.
Et c'est pas que sa propre expérience dans le qui est...
Bon, après, moi, j'ai de la chance dans ma famille que je vois pour Noël, il y a que mon frère et ma maman. Du coup, je me coltine personne avec des positions racistes ou sexistes ou homophobes.
Ça a toujours été un mixed bag. Oui, c'est pour ça que en fait, ça a toujours été un particulier à plein d'égards. Et encore une fois, tu vois, on te vend sociétalement la vision normale de la famille, la vision normale de la société, la vision normale de ce que c'est qu'un couple, la vision normale de ce que c'est X, Y et Z. T'as envie de faire oui, mais montre-moi une réalité qui correspond. Ça, s'il te plaît, sur toute la ligne. Et je te croirais peut-être un peu plus. Comment combien même les gens essayent de se conformer, c'est impossible d'échapper à Ali qui est humaine par rapport à ce genre de règles. Et je crois que c'est ce qu'on a tendance à oublier un petit peu.
J'avoue.
Et c'est intéressant parce que les vecteurs de normativité, les vecteurs du discours de voilà comment la société est, comment on est censé être, etc. Pendant très longtemps, ça a surtout été l'école, l'église, évidemment le pouvoir politique et les médias de masse. Mais depuis, on a les médias sociaux qui sont rentrés dans la danse et qui sont pas tout à fait contrôlés de la même manière que les médias de masse traditionnels, donc la télé, la radio, la presse. Et d'une certaine manière, c'est très libérateur, et d'une autre manière, ça ajoute quand même des discours et des pressions par le simple fait que c'est là, et que c'était, et je pense notamment à Internet, à la base des outils que tu utilisais comme outil de différenciation, parce que t'allais te connecter à ton forum de gens bien particuliers, t'allais lire tes blogs bien particuliers, t'allais faire x, y choses qui étaient extrêmement liées à tes intérêts et à ta façon de voir les choses. Et contrairement, à mon avis, à ce discours émergent sur les réseaux sociaux, les bulles de filtre et les gens qui sélectionnent, oui, peut-être, mais ça participe également à une massification et à une unification des discours et de ce qui est important et des événements qui ont lieu. Quand t'as fini de remplacer tous les forums et tous les lieux un peu spécifiques par Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, tu ressors avec un nombre beaucoup plus limité de robinets. Et donc, du coup, de... Ouais. De types de discours qui peuvent en ressortir malgré tout. C'est ça qui... C'est le paradoxe, en fait. C'est que quand t'es sur... Désolé, je rentre là-dessus. Tu peux m'interrompre à n'importe quel moment, Aïcha.
Non, rentre, vas-y, rentre.
Mais j'ai cette... comment dire, petite épiphanie qui est que, certes, avec Twitter, et j'y pense parce que j'ai quitté Twitter, donc je suis un peu sur le métadiscours du quittage de Twitter, mais avec Twitter notamment, tu t'exposes, par exemple, à des discours, à des perspectives auxquelles toi, en tant qu'individu, ne t'exposais pas. C'est vrai. Mais ça veut aussi dire que tu loupes une occasion de passer ton temps sur Internet avec non pas des gens qui sont choisis par un algorithme et pas, on va dire, une moyenne générale des gens qui sont disponibles, mais par des communautés sélectes et potentiellement très spécifiques et très de niche qui pouvaient plus te correspondre que ce qu'un algorithme va te dégoter. C'est la différence entre petit commun multiple et le truc qui sera vraiment la chaussure à ton pied et rien qu'à toi. Tu vois.
Tout à fait.
Et comme pour tout, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a des bons aspects à l'un, il y a des bons aspects à l'autre. D'un côté, ça permet aux minorités de se faire entendre de gens qui sont beaucoup plus majoritaires et donc du coup de faire évoluer certaines idées dans la société. Et puis de l'autre côté, d'autres médiums permettent aux minorités de pouvoir discuter entre elles sans avoir de parasitage par des connards qui tiennent des vues et voire même dans le pire des cas agissent de manière complètement moyenâgeuse à leur encontre. Mais enfin, je peux pas m'empêcher, parce qu'on vit dans une société où, entre guillemets, pour l'instant, les médias sociaux ont gagné et ont notamment gagné l'attention, de regretter l'inverse. Voilà.
C'est vrai que c'était cool, les forums.
Ouais. En tout cas, c'était cool quand c'était plus atomisé, quoi. Quand c'était plus sélectif, quand c'était plus des alcôves, plutôt que tout le monde a un appart.
Tout à fait, ouais.
Et c'est intéressant parce que on a quitté ça pour la promesse d'avoir un plus large individuel.
Ouais.
On a quitté les forums, les petits blogs, les trucs, les machins, pour la promesse d'avoir non pas un forum dans lequel 20 personnes vont lire plus quelques dizaines ou centaines de randoms qui sont pas inscrits mais qui lurquent, à Google ou autre. Plusieurs, potentiellement, tu as plusieurs milliers de personnes comme c'est le cas pour toi et pour moi. Et la question, c'est est-ce qu'on y a vraiment gagné, tu vois ? Et qu'est-ce qu'on a gagné à travers ça ? Et ça va dans les deux sens. Moi, j'ai eu des opportunités de travail, je crois que toi aussi, à travers ça. On n'aurait pas eu autrement, par
exemple. Oui, tout à fait, j'ai eu des opportunités de travail grâce à ça.
Mmh.
Donc, je le regrette pas vraiment, mais...
Après, est-ce que les trucs qui m'ont le mieux permis de vivre ont été décrochés à travers les médias sociaux ? Absolument pas. Le journal local, je ne l'ai pas eu via les médias sociaux. L'université, je ne l'ai pas eu via les médias sociaux. Et la RTS, je ne l'ai pas eu via les médias sociaux.
Ok.
On peut théoriser que ma présence sur les médias sociaux a pu jouer un rôle dans le cas de la RTS. Je peux l'entendre. Ceci étant, il y a des gens qui sont journalistes là-bas et qui ont un bien meilleur sort que le mien, qui ont une présence sur les réseaux sociaux absolument pitoyable comparée à la mienne. Donc honnêtement, je... Bon. Et je dis pas ça pour dire, mon Dieu, je suis un king des réseaux.
De toute façon, tu as quitté Twitter.
De toute façon, j'ai mis mon compte Twitter en pause, mais... Ouais. Qui est toujours le réseau sur lequel je suis le plus suivi. Ouais. Et je sais que d'une oreille extérieure, pour les gens qui nous écoutent, ça doit faire un petit peu bizarre d'avoir ce genre de conversation, parce que c'est pas si important que ça. Mais quand tu travailles dans ce genre de métier, si, c'est quand même un peu important. Ça, ça représente quand même ta place sur la pyramide alimentaire du métier, déjà. C'est vraiment une... c'est comme une Rolex en fait, c'est vraiment un symbole de statut. En fait, on vit à une époque extrêmement étrange. Ce qu'on aime à gagner d'une certaine manière, c'est-à-dire les médias et en gros internet, les écrans, waouh, super. C'est on est dans le bon siècle, génial. Le seul problème, c'est que ça n'a pas gagné comme vous l'aurez voulu exactement, c'est-à-dire pas sur le bon type de contenu et pas sur le bon type de financement. Pas avec la bonne philosophie derrière, tu vois, et pas avec le bon régime économique non plus, hein, le capitalisme, et pas tout à fait, s'accommode pas tout à fait de bien faire fonctionner la presse, et même hein, les médias créatifs, et la créativité plus en général, va être un artiste dans le capitalisme. La morale de ce Noël, les enfants, c'est que ça fait bien chier.
Ouais. Hein ? Cette morale me va.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine et c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les troupies. Quand on est petit lait et qu'on n'a pas de fric. Ascétique, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon charger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour, je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER. Toi tu m'enverras moi.
le second titre potentiel.
Alors, comme la dernière fois, j'ai rien noté. Et alors là, je ne sais pas si tu as noté.
Si, j'ai noté.
Oh j'ai mais noté. Tu es génial. Vas-y.
Je sais. Attends, avant d'y aller, je vais prendre quelques compliments en plus.
Tu es génial, tu es visionnaire. Tu écris bien, ça je l'ai déjà dit. Je ne sais pas, tu es une force de caractère qui m'éblouit.
C'est bon. Oui, j'accepte les compliments.
Voilà. C'est mon titre potentiel. Ton numéro 1, tu es une force de caractère qui m'éblouit.
Et c'est tout ce que j'ai noté.
C'est quoi ? Est-ce que c'était ta stratégie ? Est-ce que tu t'es dit je vais juste noter les compliments qu'il me fait ? Parce que si c'est que.
Non, alors, cas, c'est mon titre potentiel.
C'est si le cas, tu joues aux échecs en 3D. Hein.
Non, j'ai vraiment noté les titres potentiels.
Okay.
Alors, segment titre potentiel. Hein ?
Oui.
C'est sympa de ne pas devenir Hitler.
Ah ! Alors, ça, je savais pas que ça faisait partie de ta podcast, mais d'accord, ok.
Deux, un défi en moins. Trois, c'est chiant. Quatre, planquer le pognon. Cinq, l'anomalie qui est humaine. 6. Vecteur de normativité. 7. C'est comme une Rolex. Ou 8. Une époque extrêmement étrange.
Tu sais quoi ? Peut-être dans le seul but de récupérer des crédits de la Fondation Adventinus, je pense que. Qui finance le temps ? Je pense que ce serait intelligent de l'appeler C'est comme une Rolex.
Ok, ben.
Dans l'espoir pour que ça passe pour de la. Publicité déguisée.
Ah, vrai, d'accord, comme. D'accord. Sinon, moi, j'aime bien planquer le pognon.
Is that an admission of guilt or a title position?
Sinon, moi, j'aime bien. Deux points, ouvrez les guillemets, planquer le pognon, fermez les guillemets.
Je vois que t'as contacté ton avocat avant ce point. Je viens de m'asseoir pour. Après, il faudra que je te dise un truc qui restera dans l'enregistrement. Planquer le pognon, ouais, allons-y.
Ok, planquer le pognon est validé.
Donc, le truc qu'il fallait que je te dise, c'est que, alors, on va vraiment faire tirer le rideau de ce podcast. C'est moi qui ai lancé l'enregistrement de cet épisode, si c'était pas assez clair dans le montage. Et. Je dois utiliser le contrôle vocal pour ça, évidemment. Et je dois utiliser le champ de texte chat pour lancer la commande. C'est comme une commande dans un chat type IRC pour le faire. Et il a visiblement recopié quelques mots mais que j'ai prononcés en français, mais il a essayé de les capter comme si c'était du contrôle vocal, la dictée en anglais.
D'accord.
Et donc ce qu'il a écrit, c'est... J'aime beaucoup, en fait, c'est nonsensique au possible. Marcia Michael Awesome Opposite of Yarn for Normal Zipper is Xavier Part Philadelphia in... Alors attention, faut pas que je prononce ça mal, parce que sinon on va croire que je dis quelque chose de dégueulasse. Sub Han Allah Lassie Acid Mum Whether I Go to Sleep.
Ça a coupé au moment où t'as dit le truc qu'on aurait pu croire que c'était dégueulasse.
C'était Sub Han Allah. Mais suivant comment tu l'écris, ça fait sub-anal, et du coup, je me suis dit...
Ah, d'accord. Ah oui, effectivement.
Quoi donc ?
Sub-anal. Ça devrait être ça, le titre potentiel.
Sub-anal. Imaginez les chiffres et des lettres, et comment vous appelez ça ?